RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Nous sommes de retour sur la route du Tour à moins de 60 km de l'arrivée, maintenant 57 km 800. On va faire un point sur la course, Fred, car juste avant les infos de 16h, une offensive s'était développée en tête de peloton. Où en est-on?
Oui, ça sentait le coup de Trafalgar avec notamment le champion du monde Michał Kwiatkowski, Pierre Roland, Pierrick Fédrigo, Sagan, Degenkolb, Cavendish ou encore Brian Coquard qui figurait dans une contre-attaque derrière la grande échappée du jour. Tout ou presque est rentré dans l'ordre sous l'impulsion des Sky à l'avant du peloton. Il y a eu un petit peu d'affolement pendant quelques kilomètres. On est à 57 km 500 de l'arrivée à Mur de Bretagne. Ils ne sont plus que trois en tête. Un rescapé de l'échappée matinale, le Polonais Bartosz Uzarski pour la formation allemande Bora. Et puis, ressorti de cette contre-attaque dont on vous parlait, Lars Back, le Danois de l'équipe Lotto Soudal, coéquipier de Greipel mais aussi de Galopin, à surveiller aujourd'hui pour cette arrivée en côte. Et Michał Golas, un Polonais coéquipier de Kwiatkowski et de Cavendish chez Quickstep. Ces trois-là comptent à 57 km de l'arrivée, 50 secondes d'avance sur le peloton.
Merci Fred. Donc dans notre camion, on l'a accueilli tout à l'heure juste avant les infos de 16h, Jacinto Vidarte. Bonjour Jacinto.
Bonjour Lacolle.
Donc je le disais tout à l'heure, vous êtes l'homme de confiance d'Alberto Contador, celui qui est tout le temps à ses côtés, sauf pendant la course quand même. Pendant la course, vous le laissez faire. Hein.
Oui, oui.
Vous
ne
parlez
oui.
pas avec lui par les oreillettes pendant la course, non?
Non, pas du tout, pas du tout. Ça, c'est le directeur. Qu'il fait.
Jacinto, depuis combien d'années vous travaillez avec Alberto?
Bah, je l'ai connu depuis qu'il a passé professionnel, parce qu'à ce moment-là, j'étais journaliste au journal Marca, et après ça, j'ai commencé à travailler avec lui, spécialement depuis le Tour 2009. Ouais. Que ça a été vraiment spécial.
Oui, 2009, c'était le tour où Contador et Armstrong ont dû cohabiter et où ça n'avait pas été facile. J'imagine que Jacinto, vous aviez été dans
ça a été, on peut dire que ça a été un peu spécial.
Ouais, ouais, ouais.
On laisse comme ça.
Comment va Contador, que l'on n'a pas vu beaucoup à l'avant? En tout cas, il a toujours accompagné les coups, il n'a pas pris de coups justement. On l'a vu chuter hier dans le défilé. Apparemment, il reste au chaud. Lui qui, on le rappelle, a remporté le Tour d'Italie début juin et qui vise cet extraordinaire doublé Giro Tour de France. Dans quel état est-il après une semaine de course?
Sûrement plus tranquille qu'au Giro. Parce que au Giro, depuis une semaine, c'était la foulée. On avait passé tant de choses. Il avait tombé, il avait perdu de temps. C'était fou la première semaine de Giro. Et nous espérions plus ou moins la même chose au Tour de France, surtout pour les pavés et tout ça, les vents du nord et à la fin, ça déroulait plus ou moins tranquillement, ouais. Et sans perdre de temps, que c'est le plus important.
C'est le plus important, évidemment, puisqu'il se retrouve aujourd'hui à 38 secondes,
36
je crois.
7e du général.
Donc là, tout est évidemment est encore possible, puisque le tour, le vrai tour, va commencer pour Alberto et les autres favoris. Pas évident, évidemment, de gérer la période qu'il y a eu entre la fin du Tour d'Italie et le début du Tour de France. C'est une préparation complètement différente par rapport aux années précédentes qu'il a faites. Est-ce qu'il est aussi autant en forme qu'il était l'année dernière à la même époque, même si on rappelle il avait dû abandonner le Tour de France sur une fracture?
Oui, plus ou moins il est au même niveau. Et la seule chose qu'il doutait un peu, c'était comment il va se trouver la dernière semaine après le Giro d'Italie. Ça, c'est la seule question qui est toujours là. Mais physiquement, je le trouve plus ou moins, ou peut-être plus fort encore que l'année dernière.
Ouais.
Pas de problème sur ça.
Pas de problème sur ça. Alors, on l'a vu un petit peu en difficulté dans l'ascension du mur de Huy. Comment a-t-il vécu ce moment? On n'a pas l'habitude de le voir décramponner de la tête de course. Est-ce que ça a été dur à vivre pour lui? Est-ce qu'il s'est inquiété après cet épisode où il n'a pas perdu grand-chose, mais tout de même quand même?
Non, parce que je ne me souviens pas maintenant combien de fois il a fait la flèche ballon, mais il a toujours vécu cette course de la même façon, ce final. L'année qu'il a fait la meilleure classement là-bas, il a été troisième. Il est arrivé jusqu'au bout du mur de Huy, mais là-bas, sont arrivés Evans et Purito, et ils ont gagné à l'esprit. Alors, au mur de Huy, plus ou moins, c'est un final trop explosif pour Alberto. Ouais.
Ouais. Alors, vous parlez de Cadel Evans, vainqueur il y a 4 ans, ici même, à quelques mètres de notre camion studio, sur la ligne d'arrivée ici à Mur de Bretagne. Cadel Evans qui avait, c'est une image qui est restée célèbre, devancé d'un cheveu Alberto Contador pour la victoire d'étape ici à Mur de Bretagne. Contador qui avait levé le bras en pensant qu'il avait remporté l'étape, et Evans lui avait poursuivi son effort et jeté son vélo sur la ligne. Est-ce que ça reste dans la mémoire d'un champion comme ça, et est-ce que l'orgueil de Contador, on connaît le caractère orgulloso d'Alberto, est-ce qu'il en a parlé, est-ce qu'il vous en a parlé de cette arrivée de Mur de Bretagne où il a peut-être une revanche à prendre sur le sort?
Oui, il la connaît bien et il se souvient de cette arrivée. Et on a changé un peu par rapport à 2011, mais il sait aussi que c'est très explosif et que surtout, ça finit sans plat et on doit faire le sprint. Et ça dépend beaucoup avec qui tu arrives. Evans, il a été toujours un ennemi dans ce type de finale, oui. Mais aussi tu peux trouver des coureurs comme Purito, comme Valverde, coureurs plus rapides qu'Alberto. Alors ça va être très difficile.
Quelles sont les relations entre Alberto Contador et le patron de l'équipe, Oleg Tinkov, que l'on connaît pour ses excentricités, on va dire, sa façon un peu atypique de gérer une équipe? C'est un oligarque russe. Ils avaient eu quelques mots l'an passé, notamment après l'abandon d'Alberto sur le Tour de France. Est-ce que les relations se sont normalisées entre les deux?
Oui, après ce temps, nous arrivons à nous connaître. Aussi Oleg, il a appris comment être dans l'équipe, comment parler avec Alberto et comment se dérouler dans l'équipe. Maintenant, les relations sont cordiales, sans problème pour l'instant.
Yacinto, il y a notre reporter sur la moto que vous connaissez, puisque c'est un des supporters numéro un d'Alberto. C'est Georges Quirino Chavez, notre.
Ah oui. Ah,
vous le connaissez.
Oui, 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 oui.
Il a une question à vous poser, justement, concernant Alberto. Georges?
Oui, Jacinto, se souvient au départ à Utrecht que des journalistes néerlandais avaient offert un canari jaune porte-bonheur à Alberto Contador.
Oui.
Est-ce qu'il a gardé avec lui le canari pour le Tour de France?
Non, parce que ça pourrait être trop dangereux pour le canari. Et après la conférence de presse, j'ai parlé avec les journalistes néerlandais et ils ont porté le canari de retour à le magasin. Mais je les ai dit, quand nous arriverons à Paris, tu dois l'emporter jusqu'au podium pour le donner à Alberto.
Ah oui, un canari jaune.
Et Jacinto, parce que quand il était petit, Alberto adorait les canaris, c'est ça l'histoire, hein?
Oui, oui. Il était un expert en canari. Maintenant, nous avons un mécanicien qui a été champion du monde de ça. Et il est plus expert encore qu'Alberto.
Il reste un peu expert des Canaries et spécialement des îles Canaries, lui qui a l'habitude de se préparer au volcan TI, le repère des champions.
Très bien, Jacinto, l'adversaire numéro 1 d'Alberto sur la deuxième partie du tour, c'est Chris Froome, celui que aujourd'hui tout le monde considère comme le patron de ce Tour de France. Pour l'instant, évidemment, on n'est pas encore dans les montagnes.
Alberto, il a dit toujours que tous les rivaux, il respecte tous les rivaux. Il n'a pas peur d'aucune entrée, mais c'est vrai que le changement de rythme qu'il y a Chris Froome, c'est peut-être le plus dangereux de tous les autres, tous les rivaux. Non, mais c'est seulement un petit détail. Et on peut espérer presque tout de tous les trois. Et aussi des cyclistes comme Van Garderen, comme Purito, comme Valverde qui ont les chances aussi.
Merci Jacinto Velarte d'être venu dans notre petit studio d'RMC. On vous laisse repartir voir la course. Et il paraît que vous êtes l'homme qui court le plus dans le Tour de France. On le disait tout à l'heure avec Pierre Gloroux. Parce qu'il faut protéger Alberto en plus. Hein. C'est un vrai métier.
C'est pas vrai, mais merci beaucoup.
Merci Jacinto d'être venu nous voir. On espère. On reprendra vos impressions d'ici l'arrivée du Tour. Parce qu'évidemment, le Tour d'Alberto va débuter vraiment à partir de mardi. Fred, un nouveau point sur la course. course, 49 km 500 de l'arrivée.
Et toujours trois hommes en tête, le Polonais Michal Golas, accompagné de Bartosz Uzarski et du Danois Lars Ittingbach, coéquipier de Tony Galopin chez Lotto Soudal. On est à 49 km de l'arrivée et l'avance des trois hommes de tête est désormais d'une minute sur un peloton emmené par les maillots vert fluo de la formation Garmin, la formation américaine. Pour qui roule Garmin en vue de Mur de Bretagne, c'est un pari. Ça pourrait bien être pour Andrew Talansky ou pour Dan Martin, au choix. Il y a deux cartes pour cette équipe américaine en cas d'arrivée groupée au pied de Mur de Bretagne.
49 km de l'arrivée, on revient dans un instant dans l'intégral tour. On va faire un tour à Wimbledon. Eric Salio, Serena Williams, tout proche du titre, un nouveau titre.
Ouais, 6-4, 5-1 pour Serena Williams qui est un véritable rouleau compresseur depuis une vingtaine de minutes. On sentait venir après la perte du premier set alors qu'il était en tête 4-2. On a bien vu que Garbiñe et Muguruza commençaient à baisser la tête. Mais elle se bat avec courage. Elle va peut-être grignoter un deuxième jeu, Christophe, dans ce deuxième set, puisqu'elle est à 0-40 sur la mise en jeu de Serena Williams, qui n'aura pas réalisé une finale extraordinaire sur le plan des chiffres puisqu'elle en est à 7 doubles fautes, mais malgré ces 7 doubles fautes, elle mène 6-4, 5-1, c'est vous dire la marge que l'américaine possède sur tout le monde.
Très bien, bah oui, ça c'est une immense championne. Merci Eric, à tout à l'heure pour la suite de cette finale féminine. 16h18 sur RMC, on revient dans un instant sur la route du tour. On va parler de l'idole de la jeunesse de Cyril Guimard, celui qui lui a donné envie de faire du vélo, un certain Louison Bobet, oui, vainqueur du tour à trois reprises, c'était dans les années 50. Son neveu est avec nous et on est sur les terres de Louison Bobet, évidemment, Saint-Malo-Grand, que le peloton a traversé tout à l'heure. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
16h21 sur RMC, vous êtes avec nous, on est bien ensemble jusqu'à 18h pour le direct avec évidemment la course. Nous sommes à moins de 45 km de l'arrivée, Fred, donc on se rapproche tout doucement de Mur de Bretagne où sera donc jugé tout à l'heure cette arrivée et surtout l'ascension de ce mur à mur qui nous promet, on l'espère, de grandes choses tout à l'heure. On va faire un nouveau point sur la course.
RMC Top Course.
Avec trois hommes en tête sur les routes ensoleillées de la campagne bretonne. Deux Polonais, Michal Golas, coéquipier de Cavendish et de Kwiatkowski, entre autres, au sein de la formation Etix Quickstep. Bartosz Uzarski, inconnu du grand public, mais à l'avant de la course depuis le premier kilomètre aujourd'hui, coureur de la formation allemande Bora. Et puis il y a là également Lars Ittingbach, le Danois de la formation Lotto Soudal. Ces trois-là comptent à 44 km de l'arrivée, 1 minute 10 d'avance sur un peloton où l'on reste très vigilant avec cette explication finale à prévoir ici à Mur de Bretagne. 2 km de montée à 7% de déclivité.
Très bien Fred, on a retrouvé Dédé, ça fait des heures qu'on le cherche, on l'a trouvé.
Il est où Dédé?
André Bancala de l'association
c'est une
association.
Mais oui, en plus
des départements de France qui prépare la route. Dédé, alors, oui. Le final de l'étape, 43 km, est-ce qu'il y a des pièges, des choses à éviter? Beaucoup de monde, évidemment, sur le bord des routes, on est en Bretagne, hein, terre de vélo, oui. S'il en est.
Oui, il y a beaucoup de monde, beaucoup de drapeaux bretons, évidemment, qui s'agitent quand on passe des difficultés, oui, des petites routes étroites à certains endroits, comme là, par exemple, là où je me trouve, à 15 km de l'arrivée à Neuliac. C'est une charmante petite bourgade avec beaucoup de monde et surtout des passages assez sinueux, étroits, des tournes à droite, des tournes à gauche. Voilà le genre de route qu'on peut retrouver aujourd'hui, des routes qui sont baignées sous un soleil qui n'est pas trop trop chaud. Et donc pour moi c'est tranquille, ça ne reçut toujours pas. J'espère que les reçuages vont arriver un jour ou l'autre.
Ah bah oui, parce que là t'as pas de boulot quand même, t'as rien à foutre depuis le départ du trèche. Mais c'est pas possible ça, il y a des... Il y a des emplois fictifs sur le Tour de France, je vous le dis.
Oui,
mais non,
oui,
c'est
oui,
pas vrai, c'est tu travailles, non, on le sait, on te voit,
bien
on te
sûr,
voit
bien sûr.
Merci. Ouais, rapidement,
André. Est-ce que vous avez regardé tous le lac de Guerlédan juste à côté des zones de l'arrivée du Tour, qui est un lac artificiel, genre 30 secondes C'est-à-dire là qu'ils sont en train de vider, comme on vide un lavabo. Voilà. Et donc on y trouve surtout le
grand village. Un village qui avait été englouti et
exactement.
Qui du coup ressort avec l'assèchage.
Et avec des chasses au trésor, les gens sont venus essayer de trouver des choses. Oui. Il y a eu des choses exceptionnelles de retrouver des vieilles pellicules photos qui ont été redéveloppées. Des histoires formidables.
C'est formidable. On y retrouve même des vieilles carcasses de voitures, mais heureusement, il n'y a plus personne dedans.
On peut retrouver éventuellement quelqu'un.
Ah, mais ils sont tous avec leurs gamelles à rechercher des vieilles pièces, à rechercher des bijoux. Même la police a été obligée de mettre des cordons de sécurité lorsqu'ils ont commencé à vider le lac parce qu'il y avait trop de monde qui s'empressait et se précipitait autour pour récupérer des objets précieux ou anciens. Voilà.
Très bien. Merci Dédé pour toutes ces petites infos. Dédé de l'Assemblée des départements de France, donc qui prépare les routes du Tour de France. De retour dans notre camion, on accueille un nouvel invité. Olivier Monnier est avec nous. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Olivier, qui est donc le neveu de Louison Bobet. Et Louison Bobet, évidemment, qui est un mythe pour tous ceux qui sont passionnés de vélo. On va demander à Cyril Guimard ce que ça signifie pour lui, le nom de Louison Bobet. Cyril.
Eh bien, ça signifie d'abord un grand champion qui a été aussi le premier. Parce que honnêtement, sa carrière, j'étais un peu jeune puisque j'ai commencé, et d'ailleurs Jean-Paul Olivier l'a rappelé il y a quelques jours dans le journal de l'équipe, j'ai commencé à m'intéresser au cyclisme, c'était en 1957. Et cette année-là, le Tour partait de Nantes, et j'y étais, et c'est Jacques Anquetil qui avait gagné le Tour. Donc moi, la seule chose que j'ai connue de la carrière, de Louison Bobet, elle était liée à Jean Robic, puisqu'il y avait les matchs, comme après il y a eu Anquetil-Poulidor, il y avait deux fortes personnalités, alors totalement différentes et opposées, Jean Robic dit Biquet, et Louison Bobet dit Louison. J'ai plus connu Louison, effectivement, beaucoup plus tard, lorsqu'il dirigeait le centre de Thalasso de Quiberon, et pour moi, l'image que j'ai de Jean Bobet,
de Louison,
parce que
Jean, c'est son frère.
J'ai beaucoup plus connu Jean après, mais je vous expliquerai pourquoi. Car c'était le premier sportif de haut niveau qui avait une reconversion, et là encore au plus haut niveau. C'est le premier qui a eu un avion, ensuite il a lancé la thalassothérapie. Et c'est cette image-là que je garde, moi, de Louison, celle de coureur est beaucoup trop loin dans ma mémoire.
D'accord. Le coureur qui a réussi sa reconversion.
Voilà, c'est ça. Et Jean Bobet, alors juste...
Rapidement, Cyril.
Jean Bobet, en fait, j'ai remplacé Jean Bobet à la présidence de la Maison du cyclisme à Rennes. Voilà.
Très bien. Olivier Monnier, donc le neveu de Louison est avec nous. Olivier, Louison, en Bretagne, ça veut dire beaucoup quand même. Hein. On l'a entendu avec Cyril, même si évidemment ça remonte aux années 50. Aujourd'hui, les jeunes qui découvrent le vélo ne connaissent pas forcément le nom de Louison Bobet, mais pour les anciens, ça veut dire encore quelque chose. Et vous avez envie de remettre le nom de Louison Bobet en haut de la page, hein, en une de l'actualité.
On souhaite le faire vivre avec ses deux enfants, Philippe et Maryse, parce qu'on trouve que c'est un très bon nom pour une ligne de vêtements cyclistes, pour des cyclosportifs et des cyclistes urbains. On a donc développé une collection pour rendre hommage à Louison, un peu comme le Tour l'a fait aujourd'hui en passant dans sa ville natale de Saint-Malgrand. Et c'est une ligne ce sont des collections qui s'inspirent beaucoup du passé de Louison, de ses maillots, de ses victoires. Ça a été des grandes sources d'inspiration pour nous. Et c'est une collection qui évidemment s'inspire du passé, mais complètement contemporaine dans ses matériaux et dans son exécution. On a voulu faire une ligne qui soit très très élégante, à l'image de ce qu'était Louison d'ailleurs sur le vélo et à la ville après.
D'accord. C'est ce que vous portez sur le dos aujourd'hui.
Exactement.
Pas mal.
Voilà. Vous voyez, on a même reproduit le col du maillot jaune un peu dans cet esprit. Styliste s'est inspiré de ça. On a même reproduit les deux coutures qui symbolisent, vous savez, les poches qu'ils avaient devant pour mettre les bidons.
Voilà. Classe.
Alors, hier soir, c'est étonnant parce qu'on est passé chez Cyril et qui nous a invités à dîner. Et Cyril a ressorti ses vieux maillots des années 70 en laine très épais et qui pique, hein. Puis ah, ça oui, pique, oui. Fred. Moi, j'ai pas pu le passer. C'était un peu trop étroit pour moi. Mais Fred, qui évidemment a la tenue et la taille cycliste, raconte-nous un peu. Aujourd'hui, on pourrait plus faire de vélo avec des tenues comme ça.
Ah, on pourrait, mais.
Ça pèse 3 tonnes en plus.
À l'époque du règne de l'aérodynamisme, de l'optimisation de tout ce qui constitue l'outillage, l'appareil cycliste, ça irait moins vite. En tout cas, les coureurs pèseraient quelques hectogrammes de plus. On a sorti la petite balance du druide hier, hein, celle où il met ses plantes pour confectionner
pour
ses potions.
Potions magiques, ouais.
Et on a constaté qu'un maillot d'aujourd'hui, de 2015, pèse aux environs de 120 grammes, on a compté.
On va dire 140.
Oui, 140 grammes, tandis que le maillot jaune et le maillot vert que l'on a essayé hier, c'était un sacré moment d'ailleurs, étaient au-dessus de 300 grammes.
Et imagine sans la sueur et les kilomètres
et les bidons d'eau que l'on peut se verser sur la tête.
On était à 340 grammes.
340.
Ah non, mais pour les potions, faut être très précis.
trois fois plus lourd les maillots de l'époque que ceux d'aujourd'hui.
Mais en revanche, Olivier, vous avez raison de le dire. À l'époque, les maillots étaient plus beaux, les couleurs étaient plus belles. C'était plus classieux qu'aujourd'hui. Finalement, quand on voit les coureurs du Tour avec leur tenue bariolée, avec des sponsors de tous les côtés, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment envie d'acheter ce genre de choses.
Oui, mais il faut reconnaître aussi que le cyclisme professionnel a besoin des sponsors.
Exactement.
Mais c'est vrai que moi, qui suis un cycliste du dimanche, j'ai pas besoin de sponsors. Je suis mon propre sponsor et je préfère un maillot qui soit élégant, chic, avec des jolies couleurs et qui ne fasse pas ressembler à une pancarte publicitaire. Ouais. C'est aussi simple que ça.
C'est un vrai marché aujourd'hui. Il y a la mode du running, mais la mode du vélo aussi se développe. Il y a beaucoup de gens qui font du vélo, qui ne sont pas des professionnels, mais aussi, qui sont des rouleurs du dimanche.
Absolument, aussi bien du côté donc rouleurs du dimanche, cyclosportif, mais il y a aussi le vélo urbain qui se développe énormément dans les villes avec les Vélib dans les différentes villes, pas seulement en France, hein, ça s'est développé partout, à New York, voilà. Donc il y a un vrai engouement et il y a un engouement aussi très important dans certains pays d'Asie pour le vélo de route, quoi. Enfin, en Thaïlande, en Corée, il y a énormément de pratiquants.
Alors là, on a quelques-uns des maillots magnifiques. Le maillot jaune avec le B de
Bombay.
Le LSB, évidemment. Alors faites voir, je vais toucher un petit peu. Oui, c'est moins épais que le maillot qu'on a touché hier.
En fait, c'est du mélange, c'est de la laine 100% de mérinos qui est mixée avec un polyester, ce qui permet une évacuation rapide de la transpiration et un très grand confort. Et de pas trop dégager de mauvaises odeurs quand on roule. C'est aussi important.
Chouettes. Ils sont très très beaux.
Il faut jouer à l'international. C'est sûr, quand on lance une marque de fringues de vélo aujourd'hui, il y a un tel marché, que ce soit chez les Américains, outre-Manche, chez les Anglais, en Australie, c'est un business. Le vélo est devenu le golf des années 90. C'est très clair. Ouais. Les gros patrons d'entreprise ne vont plus forcément autant sur les parcours de golf aujourd'hui. Ils prennent leur vélo à 5-6 000 euros, ils endossent leur tenue à 250 euros et vont se faire plaisir et se mettre torchon entre gros boss. On l'a vu en Angleterre notamment l'année dernière,
cette folie pour
l'Angleterre. C'est un marché qui se développe de manière extraordinaire, mais pour évoquer ce que vous disiez à l'instant, la Corée aussi, il y a beaucoup de jeunes cadres ou moins jeunes qui jouent au golf, qui se convertissent effectivement au vélo en investissant dans de la très belle mécanique et des très beaux équipements.
Est-ce que vous avez gardé les maillots de l'époque de votre tonton?
Alors moi j'en avais, ma mère en avait, parce que ma mère est la sœur de Louison, et je m'étais déguisé une fois, je me souviens, c'était pour fêter mon bac en maillot de l'équipe de France, en maillot jaune,
Méron,
et j'avais même été jusqu'à mettre les boyaux, vous savez, sur le dos. comme il avait. On les a plus, les maillots, parce qu'on a souhaité en faire profiter tout le monde, enfin surtout ses enfants et gens qui en avaient beaucoup, puisqu'il y a un musée à Saint-Malgrand où sont exposés de nombreux maillots de
les vélos, les maillots
de, les maillots, de les, voilà, les vélos qui sont magnifiques. Voilà.
Très bien, merci Olivier Monnier d'être venu dans ce studio. Bonne chance avec votre marque. Donc Luzon Bobet, ça coûte combien les maillots que vous vendez?
Ah, c'est des maillots de gamme. Hein.
Ah, c'est pour les...
Ça coûte entre 150 et 180 euros. D'accord. Mais c'est la matière, c'est fabriqué en France. France, pas très loin d'ici d'ailleurs, une partie a été faite pas loin de Fougères, vous voyez.
Très
donc
bien.
On est resté breton pour une partie
c'est
de la collection.
C'est parfait. Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup
Olivier Manin d'être venu dans notre studio. Donc le neveu de Louison Bobet qui veut rendre un peu hommage à son tonton et qui en même temps va permettre aux cyclistes du dimanche, un peu aisés quand même, faut bien le dire, de rouler tranquillement. 34 km de l'arrivée, Fred, on va faire un nouveau point sur la course.
RMC Top Course.
Avec trois coureurs à l'avant en direction de Mur de Bretagne, aujourd'hui on change de physionomie après une première semaine quasiment toute plate. Arrivé en haut d'une ascension de 2 km à 7% de déclivité, on attend les punchers et peut-être les prétendants au maillot jaune. 34 km à parcourir, un trio de tête composé de deux Polonais, Michal Golas chez Etix Quickstep, Bartosz Uzarski pour la formation allemande Bora et puis Lars Ittingbach, le Danois de l'équipe Lotto Soudal qui roulait à l'avant tout à l'heure pour favoriser les intérêts du français Tony Galopin. Galopin que l'on espère voir triompher un an après sa victoire d'étape à Oyonnax. Une minute d'avance pour le trio tête sur le peloton.
Direction Wimbledon, Eric Salieux, Serena Williams toute proche d'un nouveau titre.
Pas mal de match pour Serena Williams et voilà, c'est fait. Serena Williams remporte Wimbledon, même si le challenge a été demandé par Garbinier Muguruza. On va surveiller, il y a un peu de confusion, mais en tout cas il y a 6-4, 5-4. On attend le verdict. Mais Garbinier semble avoir compris, elle serre la main de l'arbitre avant le verdict. Non, il n'y aura même pas de vidéo, voilà. Ça a été un peu confus, mais en tout cas Serena Williams remporte ce titre à Wimbledon, le 21e de sa carrière, le 20e grand chelem de sa carrière. C'est-à-dire que à l'US Open, elle pourra égaler Steffi Graf qui détient le record avec 22. 6-4, 6-4, ça n'a pas été grande finale sur le plan technique. Serena termine avec 8 doubles fautes, mais elle était plus forte incontestablement. 6-4, 6-4.
Merci Eric. Donc victoire de Serena Williams à Wimbledon. On revient dans un instant sur la route du tour. Nous sommes à 33 km de l'arrivée. Il va peut-être se passer des choses, on l'espère en tous les cas. Parce que là, c'est un peu l'heure de la sieste. Il faut bien le dire sur les routes du tour. À tout de suite.
Skoda vous emmène sur les routes du tour. Skoda, partenaire officiel du Tour de France.
N'oubliez pas, RMC s'écoute aussi sur le câble et le satellite.
Allez Fred, un point complet de cette course à 33 km de l'arrivée. Ça va être simple, hein, ça va être simple à faire. Hein.
Oui, toujours trois hommes en tête. C'est l'heure de la sieste pour certains, mais certainement pas pour le trio tête qui s'emploie depuis une quinzaine de kilomètres maintenant. Deux Polonais, on vous le rappelle, Michal Golas qui rêve peut-être de la quatrième victoire d'étape en 8 étapes pour l'équipe Etix Quickstep, lui qui est coéquipier de Mark Cavendish, de Zdeněk Stybar et de Tony Martin rentré à la maison, l'Allemand, on vous le rappelle, peut-être une quatrième victoire, ce sera dur tout de même, parce que Golas, accompagné de son compatriote Uzarski et du Danois Lars Bak, compte une minute d'avance sur un peloton particulièrement vigilant. On ramène tous les favoris à l'avant avec les Tinkoff Saxo et leur maillot jaune fluo pour Contador, mais aussi pour Peter Sagan qui rêve de débloquer enfin le compteur après 3 deuxième places et 2 troisième places depuis le départ du tour. Les maillots verts fluo de l'équipe Garmin sont également à l'avant pour leur leader américain Talansky, mais surtout sans doute pour leur grimpeur puncher irlandais Dan Martin. Écart stabilisé, on joue exactement comme il le faut à l'avant du peloton. Les BMC sont en deuxième rideau pour protéger TJ Van Garderen. Les Sky un peu plus loin aujourd'hui, tout comme les Astana. Attention à ne pas prendre de cassure, mais il reste encore du temps pour les favoris. Il reste du temps à Contador, à Quintana, à Nibali ou à Froome pour revenir aux avant-postes et aborder cette montée finale de 2 km.
Évidemment, il va se passer des choses. Restez avec nous. Il reste 31 km encore à parcourir, mais les grandes manœuvres ne vont pas tarder à se mettre en place avec évidemment tous les leaders qui vont tenter de limiter les dégâts et pour certains de prendre pourquoi pas quelques secondes à Chris Froome. Réponse dans quelques minutes. À tout de suite sur RMC.
RMC, c'est au 32-16. 34 centimes la minute, plus coût éventuel selon opérateur. Et au 7-32-16, 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
30 km de l'arrivée de cette huitième étape à travers la Bretagne avec ses routes ensoleillées. Il fait un temps magnifique aujourd'hui, surtout la Bretagne, et évidemment beaucoup de monde sur le bord des routes pour applaudir les champions. Il y a même des gens qui en profitent pour se marier aujourd'hui et qui en même temps voient le Tour de France passer devant les fenêtres de l'église. On va retourner sur la moto RMC avec Georges Quirino qui se trouve donc à l'avant avec les hommes de tête. Georges, c'est un petit peu accéléré quand même, mais bon, c'est pas non plus la vitesse supersonique aujourd'hui, hein.
Oui, on est quand même à une allure assez tranquille. On est dans le passage de la commune de Guelta, où il y a énormément de spectateurs, hein, qui sont là à droite et à gauche de la route avec des drapeaux bretons. On a écrit le nom de Warren Barguil à plusieurs reprises sur la chaussée. Il y a des supporters de Cyril Gauthier également qui sont là. Et puis derrière nous, le groupe de trois avec Bach, Golas et Urzaski qui eh bien voit toujours l'avant-garde du peloton derrière, qui aussi avec un écart d'une minute. Il y a pas de voiture de directeur sportif derrière le groupe de tête, il n'y a que la voiture d'assistance mécanique parce que l'écart est trop faible, et nous-mêmes nous sommes devant cette échappée, toujours sous le soleil. Et c'est vrai que avec un monde de plus en plus important sur le bord de la route, au fur et à mesure qu'on se rapproche de la ligne d'arrivée, les drapeaux bretons qui sont là depuis le début de cette étape à Rennes. Vraiment, on n'a aucun doute sur le fait aujourd'hui que l'on est sur une terre de cyclisme.
Évidemment, la Bretagne, terre de cyclisme, c'est pas le druide Cyril Guimard qui va me contredire. Cyril, c'est la passion dans tous les départements bretons, ou il y a des départements qui sont encore plus passionnés que les autres?
Non, on peut dire que c'est il y a une harmonie complète sur le plan d'abord des coureurs d'une part, hein, mais là, oui, non, c'est vraiment une culture bretonne que le cyclisme qui s'est construite d'ailleurs au fil des années, parce qu'en fait les premières courses cyclistes organisées en Bretagne s'appelaient les courses de Pardon. Et donc dans toutes les villes où il y avait les Pardons, eh ben, il y avait un certain nombre d'activités, enfin d'activités loisirs bien sûr, dont la course de vélo, d'où sont nés après ce qu'on va appeler les critériums. Tout le monde a entendu parler bien sûr de la Milieu de Bretonne et de la tournée des critériums d'après tour pour les professionnels. Oui, la Bretagne, c'est vraiment une terre de cyclistes. Et je vais ajouter, parce que vous aimez les chiffres, que la moitié des coureurs français qui ont gagné le Tour de France sont bretons.
Ah d'accord, ben, c'est pas notre réalisateur à Paris qui va nous démentir. Lui aussi est breton, on est entouré de bretons là. Entre Pierre-Yves Leroux, Cyril Guimard, Sylvain Kemener à Paris, ça fait beaucoup de monde. Très bien, 16h42, c'est l'heure de la question du jour avec nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, puisque David Obzinski vient de nous rejoindre dans le camion. Salut David.
Salut à tous.
Pas évident, hein, il y a du monde aujourd'hui, pas évident de rejoindre la ligne d'arrivée.
Oui, mais c'est bien de voir autant de monde.
Ouais, hein. La passion de la Bretagne pour le vélo. Alors, dans quelques minutes, on va arriver au pied de mur de Bretagne, Fred, évidemment tout le monde se demande si ce mur va donner quelque chose, si les leaders vont s'attaquer, vont-ils se faire la guerre dans le mur. David, est-ce que tu espères, enfin nous on espère, hein, pour tout te dire, parce que là pour l'instant c'est quand même la balade du samedi, hein.
Oui, évidemment, c'est tentant d'espérer quand on est au pied de la côte là. C'est vrai que c'est impressionnant, et ça fait, on imagine très bien le spectacle que ça pourrait donner, surtout qu'on a eu un avant-goût la dernière fois avec le duel Evans-Contador. Oui, quand ils étaient hier les leaders, comme Arnaud Démare le déplorait un petit peu, ils étaient en tête de la course du peloton à 1,5 km, 2 km de l'arrivée pour un sprint. Alors là, on imagine bien qu'avec une côte comme celle-ci, à mon avis, ça va les titiller
et ça va le faire. Fred, rassure-nous, toi aussi, ça va le faire, ça va attaquer, ça va partir dans tous les sens là.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas le droit de rester à l'arrière de la classe, sauf s'il y a une chute ou une crevaison qui viendrait annuler tout écart sur la ligne. Puisqu'on le rappelle, cette règle des 3 derniers kilomètres, s'il y a un incident mécanique ou une chute et que les coureurs sont attardés, eh bien c'est lissé et on annule tout ça. Non, aujourd'hui on espère évidemment une explication à la pédale, sans incident quel qu'il soit. On rappelle que ce matin les 4 grands favoris pour la victoire finale se tenaient en 2 minutes. Froome, maillot jaune, Contador 7ème à 36 secondes, Nibali à 1,39 quand même. Il va pas falloir 1,38, il va pas falloir continuer à perdre du temps. Et puis Quintana, qui lui s'envolera sans doute dans les montagnes, pointe à près de 2 minutes à 1,56. Le terrain n'est pas forcément propice à Quintana pour refaire du retard, mais c'est vrai qu'on en salive d'avance. Ouais. mais ils ne seront pas les seuls. Ce n'est pas un terrain exclusivement pour prétendre à la victoire finale aujourd'hui.
C'est sûr, mais il y a une petite chose qu'il n'y avait pas il y a 4 ans et qui forcément sera un peu plus excitante, c'est les bonifications. Parce
oui.
que Alberto Contador, il aurait bien besoin d'aller chercher quelques secondes par rapport à Froome. Hein.
10, 6, 4, on connaît la règle sur le Tour de France. 10 secondes de bonif au premier, 6 pour le deuxième, 3 pour, 4 pour le troisième.
Est-ce que ça convient mieux, Cyril, à Contador que l'arrivée au mur de Huy l'autre jour, où on en parlait tout à l'heure avec Jacinto, il avait quand même un peu séché hein, dans l'ascension du mur. Aujourd'hui, c'est plus pour lui?
Oui, d'abord d'une part c'est plus long puisque cela fait même un peu plus de 2 km parce que avant d'arriver véritablement là au virage à droite où on attaque la montée, ça monte déjà avec un petit faux plat d'à peu près 5 ou 600 mètres, même si c'est pas très difficile, mais ça il faut quand même en tenir compte. Et puis je suis persuadé que l'année où il fait 2 derrière Cadel Evans, il marchait moins bien que cette année, à mon avis. Donc c'est une ascension qui lui va, à mon avis, relativement bien.
Lucho, tu confirmes toi aussi la grande bagarre tout à l'heure. Tout le monde va vouloir aller décrocher le pompon au sommet.
Mais comme je l'ai dit hier, je pense que Froome va quand même essayer de tenter quelque chose. Comme il avait fait, je crois, où c'est Contador.
Le mur de Huy.
Oui. Non, pas le mur de Huy, il y a quelques années, au mur de Bretagne.
Oui, Contador avait
fait deuxième.
Et il avait cru gagner, il s'était fait tout à fait.
À un moment donné, un des quatre leaders, voire peut-être deux ou trois, vont tenter quelque chose et un petit peu s'impressionner les uns et les autres. Et puis aussi, la différence d'il y a 4 ans, c'est vrai qu'on prend la côte carrément à l'arrêt, quoi. On tourne à droite en bas on voit le mur, le virage, et on voit le mur direct alors qu'on avait l'élan de la descente avant, hop, la cuvette, et puis on remontait directement le mur, il y avait un petit peu d'élan. Et là, c'est complètement différent aujourd'hui.
Il y a du vent en plus.
Et avec un changement de braquet, c'est-à-dire qu'on passe du grand plateau au petit plateau d'un seul coup.
Très bien, on espère tous qu'il va se passer des choses, parce que pour l'instant, cette course est un petit peu monotone depuis le départ de Rennes ce matin, même si évidemment des spectateurs sur le bord des routes se regardent. Merci David d'être venu dans notre studio. Demain dans le Parisien.
On va parler du contre-la-montre par équipe,
oui,
très
évidemment.
Important.
Autre moment important demain avec ce contre-la-montre et l'arrivée à Plumelec.
Il y aurait déjà même un débat à faire sur le contre-la-montre.
Un papier comme ça sur le contre-la-montre par équipe, ça se prépare combien de temps en amont au Parisien?
On a un petit peu anticipé sur le calendrier, mais c'est vrai que ce matin au départ à Rennes,
on en parlait déjà.
L'équipe française qui était déjà
focus
sur le thème.
Vous
ne
vous posez pas la question de savoir si de faire le contre-la-montre par équipe une semaine après le départ, sachant qu'il y a des équipes qui vont être très handicapées est-ce que c'est un débat sur le
Parisien? Oui,
oui,
on s'intéresse notamment à l'équipe Orica qui se retrouve dans une situation fort particulière.
Combien ils en sont?
Ils n'ont plus que 6. C'était leur objectif principal pour aller chercher une étape. Et puis finalement, comme ils disent, ça va se transformer, ça va être notre journée de repos avant l'heure.
Orica qui avait remporté le contre-la-montre par équipe sur le Giro. Exactement. Il y a 2 mois.
Très bien, on reparlera évidemment de tout ça demain. Merci David Opozanski.
Merci à vous.
Du Parisien. Il n'y a pas un nom breton lui. Hein. Merci David. À demain pour une nouvelle question du jour, évidemment, avec nos confrères du Parisien. Aujourd'hui en France, on fait un petit tour à Villeneuve d'Ascq pour les championnats de France d'athlétisme. Fix de Châteaufort, où en est-on, Fix?
Avec une bonne nouvelle pour Cindy Bio qui vient de remporter sa série du 100 mètres en 12 secondes 83 et qui a réalisé par la même occasion les minima pour les championnat du monde de Pékin. Cindy Bio qui court après ses minima depuis quelques courses, et bien ça y est, c'est fait, elle est libérée, elle va pouvoir disputer très sereinement la finale qui est prévue tout à l'heure à 17h50, à suivre à 17h30 les séries du 100 mètres messieurs avec Jimmy Vicco et Christophe Lemaître, et puis la grande finale du 100 mètres ce sera à 18h35 tout à l'heure.
Merci Félix, à tout à l'heure. Je vous rappelle également la victoire tout à l'heure de Serena Williams qui s'est donc imposée en finale à Wimbledon. 16h48, on va se quitter quelques instants, on va avancer les infos de 17h de manière à ne pas louper le final, parce qu'il peut se passer des choses, on vous le répète assez depuis le début de la midi, avec donc l'ascension de Mur de Bretagne. Nous sommes à 23 km de l'arrivée et toujours une petite poignée de secondes d'avance pour les hommes de tête. 50 secondes au dernier pointage. À tout à l'heure.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
Nous sommes à 21 km de l'arrivée pour ne pas louper le final de cette 8e étape du Tour de France avec l'ascension de Mur de Bretagne. Nous allons avancer les infos de 17h. Il est 16h52 sur RMC. 16h52, David Buron est là pour les infos avancées. Bonjour David.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. L'avenir de la Grèce entre les mains des ministres des Finances de la zone euro. Réunion cruciale en ce moment même à Bruxelles. Ils examinent le dernier plan de réforme proposé par Alexis Tsipras. Enjeu, le maintien de la Grèce dans la zone euro et le déblocage d'une nouvelle aide financière. Mais certains pays se montrent sceptiques vis-à-vis d'Athènes. Il y a un gros problème de confiance, déclare le président de l'Eurogroupe. Cérémonie houleuse aujourd'hui à Srebrenica en Bosnie. Des dizaines de milliers de personnes commémorent le massacre il y a 20 ans de 8000 musulmans. À la mi-journée, le Premier ministre serbe a été hué et caillassé par des participants. Il aurait été touché à la tête. Belgrade dénonce une attaque contre la Serbie. Un mort et quatre blessés, bilan de l'attentat perpétré ce matin au Caire devant le consulat italien. Une voiture piégée a explosé vers 6h30. Selon les autorités égyptiennes, c'est un civil qui a perdu la vie. En France, toujours beaucoup de monde sur les routes. Premier gros week-end de départ en vacances. Actuellement, on compte environ 300 km de bouchons cumulés. Ça coince notamment sur la 7 en Rhône-Alpes. Et puis en tennis, la victoire de Serena Williams, il y a quelques minutes en finale de Wimbledon. L'américaine numéro 1 mondiale a battu l'espagnol Garbiñe Muguruza en 2-7, 6-4, 6-4. Serena Williams qui remporte son 21e titre en Grand Chelem. Direction Enghien à présent, on fait un point sur les courses avec vous Frédéric Zermattier, bonjour.
Bonjour à tous, avec l'arrivée de la 6e épreuve et victoire du favori le 8 Calderon de Pouche qui s'impose à 2,30€. Il s'impose assez sûrement malgré la bonne fin de course du 7 Crusoe d'Anama. 3e place pour le 6 Cédar qui arrive. 4e le 3 Cristal du Gite. Dans la 5e course, très facile victoire du 3 Rocky Winner, 8€ gagnant devant le 4 Kina Jolie, le 8 Urgos et le 13 Vicomte Boufarco. Enfin, le rappel de l'arrivée du quintet 5, 6, As, 10 et 11. Il rapporte 80 760€ dans l'ordre.
Merci Frédéric. RMC 16h54. Dans quelques minutes, l'arrivée de la 8e étape du Tour de France et dans l'intégral Tour avec Christophe Cessieux.
Eh oui, le final approche, le final de cette 8e étape du Tour de France et l'arrivée à Mur de Bretagne à l'issue d'une longue côte d'un peu plus de 2 km où on espère voir les favoris se mettre en évidence. On va suivre ça évidemment en intégralité sur RMC dans l'intégral Tour. À tout de suite.